dix ans, exactement dix ans, à peu près, donc le protestantisme alsacien-mosellan, ce qui fait à peu près 250 000 personnes, 250 paroisses en gros. Spiritualité, oui, la prière, je connais, les lectures bibliques que j'adore, bon, mais je les lis, vous avez. Peut-être que ce que j'ai de plus spirituel, c'est effectivement les lectures bibliques, mais je ne peux guère les lire que seul ou en groupe. Mais disons, je les lis à ma manière. voilà, c'est-à-dire qu'une formation ayant été, enfin, tous les grades universitaires de théologie font en sorte que on lit, je le lis à ma manière, je pose les questions que le texte me pose. J'ai une bibliothèque, donc je cherche dans la bibliothèque. J'ai quand même plutôt, en termes de spiritualité pure, si ça existe, la mienne est plutôt de type universitaire intellectuel. Voilà. Bien. Mais donc, je pense quand même que l'idée qui m'est venue, ici même d'ailleurs, ici, depuis hier, que la spiritualité est plutôt de l'ordre de l'individu, alors que la religion est de l'ordre du groupe et du coup du social, je pense que ça vaudrait la peine qu'on approfondisse, ça vaut ce que ça vaut, mais ça correspondrait assez bien à ce que Jean-François Barbier disait hier, ce qui est d'ailleurs une évidence, qu'on vit dans une société de plus en plus individualisée, donc qui a tendance à développer en termes religieux le spirituel plutôt que le communautaire. Plutôt. Oui, alors il y en a d'autres.
Alors, je parle fort. Il y a beaucoup. Alors, il y a par exemple une question, comment transmettre l'intuition de la foi ? Pour rester dans le même.
Oui. Alors, je reviens, j'insiste là-dessus que les mannes de Jean-Paul II me pardonnent. N'ayez pas peur. C'est-à-dire, tout le monde a de la foi. Tout le monde, je dirais même le plus... Même le plus mécréant, si vous voulez. donc, alors l'intuition, de toute façon, une intuition, ça ne se transmet pas. Hein. Ça ne se transmet pas. Mais on peut discerner en termes d'échange, de dialogue, de conversation, on peut distinguer ce qui est justement point, ce qui intéresse X. Parmi les, comment dirais-je, je suis pas un fou, un fanatique de foot, ni de foot, ni de rugby, ni de, bon, bien. Mais je suis convaincu qu'en discutant avec bien des personnes qui, elles, lisent l'équipe comme elles lisent comme d'autres lisent l'Évangile, on distingue le niveau de foi, d'implication, de pari qui est... Alors, même... pour ce qui est des sports, le pari, c'est devenu même quelque chose de monnayé, de monnayable. Nous, chrétiens, nous ne sommes pas... Voilà, c'est ça ce que je voudrais dire. Et nous qui croyons, et qui croyons que notamment en Jésus-Christ, dans l'Évangile, enfin, c'est évident. Nous ne sommes... Voilà, c'est ce que je voudrais dire, c'est ça. Nous ne sommes pas fondamentalement différents des autres. Il faut pas se laisser marginaliser. Il faut dire, bon, je crois que ça a été dit à un moment donné, et c'est bien... C'est ma manière de croire. Le christianisme, la foi chrétienne, c'est ma manière de croire. C'est... Ben, je suis comme ça. Bon, je ne veux pas changer quand même à 79 ans. D'abord, je ne peux pas, si je voulais, et surtout, je ne veux pas. Mais ça m'intéresse de voir comment d'autres personnes... Alors, soit qu'elle soit soi-disant agnostique, soit qu'elle soit d'une autre religion, ça m'intéresse de voir comment la foi fonctionne chez elle. En quoi est-ce qu'elle croit ? Je prends par exemple, c'est un peu embêtant à dire. J'ai un petit-fils qui est pleinement engagé dans le tennis. Le tennis, c'est sa vie. Bon, ben, c'est intéressant de voir comment ça fonctionne, comment il fonctionne, comment... Voilà, je... Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
C'est vous qui voyez. Alors, est-ce que vous voulez qu'on aborde les questions sur Adam et Ève ? Parce qu'il y en a beaucoup, il y en a plus d'une dizaine, et elles sont de différents registres. Il y a un registre qui s'intéresse... À la façon dont vous l'avez présenté. Par exemple, Ève a répondu au serpent, donc elle avait eu l'information, donc Adam lui avait parlé, non ? Ben voilà. Pourquoi ? Donc il y en a qui sont sur cette précision des termes ou de l'histoire elle-même. Il y en a des questions qui sont plus sur une extrapolation. Par exemple, le pasteur Collange confirme mon opinion, l'homme naît avec une tendance misogynique. S'il ne fait pas un travail psychologique et affectif, il persiste dans cette tendance, point d'interrogation. Voilà. Et il y a un autre registre de questions qui renvoie d'une part à d'autres questions, notamment sur les fake news. Le malentendu de la création entre Adam et Ève n'est-il pas un prémisse des fake news d'aujourd'hui ? Et il y a pas mal de questions sur les fake news aussi. Voilà. Et puis, il y en a aussi sur le problème, problème du mal en général. Voilà. Il y a différents registres de questions autour de Adam et Ève.
Très bien. Alors, c'est parfait. Le résultat... recherché de façon plus ou moins consciente, est atteint. C'est-à-dire que ça libère la parole. C'est bien, c'est super. Un texte, vous vous rendez compte ? Ça fait parler, et puis c'est bon. Un des modèles de lecture biblique me semble être quand même le modèle juif. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'ouvrir soit un livre du Talmud, soit... qu'est-ce que c'est ? Vous avez le texte au milieu, ou un texte, ce n'est pas toujours le texte biblique, mais vous avez un texte au milieu, et puis vous avez Rabbi Jacob ben machin... dit que ça veut dire ça. Tout de suite, Rabbi Joseph dit, pas question, ça ne veut pas du tout dire ça. Dit un autre rabbi ou un autre lecteur de la tradition, l'important... Et vous savez, il y a je pense que si on On interviewait maintenant un rabbin ici et on lui demandait qu'est-ce qui fait l'essence du judaïsme. C'est la Schule en allemand, c'est l'école, c'est l'étude. Ils étudient et ils sont capables, et c'est ça qui est merveilleux. Entre parenthèses, c'est une hypothèse tout à fait, ce n'est qu'une hypothèse, et elle m'est personnelle, mais ça ne m'étonne pas du tout que dans les prix Nobel, enfin les Einstein, etc., il y ait tant et tant de personnes originaires du judaïsme. Pourquoi ? Parce qu'ils passent leur temps à débattre, à discuter entre eux, à parler, à se dire « mais est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est comme ça ?» Ils sont même capables de dire ce que je n'oserais pas dire. Enfin, peut-être notre oratrice d'hier soir a eu ce courage. Dieu n'existe pas. L'important, c'est qu'on puisse discuter pour savoir s'il existe ou s'il n'existe pas. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est une position très juste, parce que si Dieu existe vraiment, ce que personnellement je suis prêt à confesser, si Dieu existe vraiment, il n'a pas besoin que chacun d'entre nous dise « Oh Seigneur, tu existes, heureusement ». Il est de l'essence de Dieu d'être, ça a été vraiment très bien dit hier soir, incommensurable. On ne peut pas en faire le tour. Si on en faisait le tour, ce serait une planète, mais ce ne serait pas Dieu. Dieu est infini et nous dépasse de toutes. Mais il a cette caractéristique fondamentale de nous appeler, de nous parler, de nous permettre de parler. Nous sommes des êtres parlants, nous sommes des êtres qui ont besoin les uns des autres, qui échangent. Voilà, c'est bien. Alors, encore une fois, Adam et Ève... J'ai déjà eu l'occasion de le dire à l'un ou l'autre d'entre vous, comment m'est venue l'idée de lire le texte de Genèse 2 tel que je l'ai fait, c'est-à-dire où Adam parle sur Ève et non pas à Ève. Tout simplement parce que je me suis trouvé un jour face à un collègue qui me débitait plein de choses que je devais dire ou faire. Et du bon, il a peut-être... Enfin, il a ses raisons, mais ce n'est pas les miennes. Il parle sur moi, mais il ne me laisse pas parler. Et donc, voilà. Mais donc, c'est très bien. Discutons, allons-y, faisons les rabbins. Soyons rabbins.
Certaines de ces questions font le lien avec aujourd'hui, d'une part, je vais commencer peut-être par cette question de l'écologie. Par exemple, notre communauté de chrétiens fervents s'est écharpée sur le vaccin anti-Covid. Comment expliquez-vous que les fake news aient eu un tel impact dans un groupe soudé et croyant ? On a encore d'autres questions Voilà, connaissez-vous notre serpent du cerveau, alias le striatome, qui nous siffle toujours plus ? Dieu croit en l'humain, c'est du domaine du croire, c'est un pari, non, là c'est double pari entre lui et nous. Donc une question, il y avait une autre question sur le mal. Enfin, il y a la question du mal qui revient à deux reprises. Je vais essayer de trouver l'autre formulation. Ah oui, et le mal intéresse, et voilà. Comment conjuguer le niveau 3 de la foi en Dieu, esprit créateur bienveillant, et le mal intrinsèque à toute conscience ?
Bon. Un chapitre de mon bouquin, tout un chapitre, concerne les pathologies du croire. Et c'est justement On peut se demander d'ailleurs, revenons à l'actualité, à la triste actualité du moment. On peut se demander pourquoi effectivement c'est notamment, certainement pas exclusivement et même pas fondamentalement, mais pourquoi est-ce que c'est entre musulmans et juifs ? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que les pires atrocités se découvrent aussi au sein des religions, de religions ? Ben c'est justement parce que c'est radical. On est au niveau 3, au niveau radical. La foi, c'est-à-dire la possibilité de s'engager, de parier, de voir au-delà, s'enracine dans la religion, dans l'absolu. Et ça conduit aux martyrs les plus remarquables, aux actes, à des mères Teresa, à des mères Emmanuel, et puis même à notre niveau, à des gestes de générosité, d'engagement, de service remarquables, justement parce que ça s'enracine dans un absolu qui nous dépasse. Mais, dans le même temps, ça peut virer comme des couleurs peuvent virer justement en absolu, en fondamentalisme, en littéralisme, en exclusion. C'est pas pour rien, tout ça mériterait d'être, c'est pas pour rien que dans le djihadisme actuel, mourir, martyr, est le summum de la foi. C'est la grimace, c'est le summum de la grimace de la foi. Mais c'est parce que ça s'enracine dans un Dieu qui pourtant est de bonté aussi dans l'islam. Hein. Toutes les sourates commencent par « Au nom du Dieu bon et miséricordieux ». Alors, je ne sais pas comment on peut faire du djihad quand on entend simplement ça, que toute parole de Dieu est prononcée au nom d'un Dieu bon et miséricordieux. Mais du coup, ce Dieu bon et miséricordieux reste l'absolu, le bien, mais au prix de la vie des mécréants, de ceux qui, théoriquement, ne croient pas... qu'est-ce qu'il y avait autrement encore le mal. Le mal, je voulais... Là, on peut... C'est pas une université d'été ou une université d'automne. C'est l'université de la fin de votre vie, si vous avez envie. On peut y aller. Mais là aussi, un rabbin... un rabbin datant du Moyen-Âge, dont je ne me rappelle plus exactement le nom, mais avait une hypothèse qui s'appelle le Tzimtzum, en hébreu, Tzimtzum, à propos du mal. Et, ma foi, on peut... Je vous la soumets. En créant Dieu, forcément, de la même façon que Adam ne va pas se retrouver seul, mais en créant, Dieu n'est plus seul. Et n'étant plus seul, il crée un homme à son image, c'est-à-dire un être humain de liberté. Donc, le Tzimtzum, ça veut dire très exactement retrait. Dieu créant un homme à son image, pouvant avoir des initiatives, de l'intelligence, Dieu dit, tu es adulte, je ne vais pas être tout le temps à te tenir la main, à te dire, je te dis, il y a une limite, d'accord, et prends ça très au sérieux, mais je ne veux pas te dire laquelle, ça doit te trouver. Et Dieu, en créant se retire, tsimtsum. En se retirant, il laisse la possibilité au serpent de montrer le bout de son museau et à l'homme de ne pas faire tout à fait ce qu'il devrait faire. C'est une hypothèse sur... Mais je pense que quelqu'un qui l'a vécu, qui a vécu cette douleur du mal jusqu'au bout, sans l'expliquer, mais il l'a vécu, c'est le Christ. Il y avait des hommes qui étaient ses contemporains, ses frères, ses juifs, qu'il condamne, et les Romains, disons ses contemporains, qu'il condamne alors qu'il n'a rien fait de mal. Il ne cherche pas à expliquer, il n'explique pas, mais il paye.
Alors, il y a aussi plusieurs questions autour de l'écologie. Déjà, il y a une remarque. On ne peut comparer la situation de l'après-guerre en 1945 et la fonte des glaciers que justifie l'éco-anxiété. Un jeune vous demande, comment vous engagez-vous concrètement pour l'écologie qui est l'affaire de tous ? La croyance au jour le jour construite sur un petit territoire, une solidarité de nourriture pour tous malgré la dérive climatique d'ici 2050, face à l'adversité qui vient construire une solidarité en commençant par la base, la nourriture accessible à tous, Dieu croit-il en nous ? On a pu parler hier de blessures narcissiques, Copernic, Darwin, Freud. La prise de conscience de la crise écologique semble être une blessure. Je suis mortel, mais mon monde aussi. Cette prise de conscience invalide le grand récit auquel l'humanité croyait, le capitalisme. Comment imaginer un nouveau récit collectif auquel croire ? Voilà, enfin, des questions au cours de l'écologie.
Alors comment engager un récit, ça se dit et ça circule. Je pense que le grand récit sur l'écologie, enfin je pense, je ne suis pas sûr que le grand récit sur l'écologie soit déjà, ça y est, ce sont des sources, c'est des sources dans la montagne, mais le récit cohérent, le récit complet, lui est encore à construire, et il est à construire en nous laissant parler les uns les autres, en nous écoutant les uns les autres. Et en essayant de voir, alors ce n'est pas seulement les paroles, le blablabla, c'est les actes. Je prends un exemple, la bagnole. Alors moi je ne dirais pas, comme notre président de la République, j'aime la bagnole. Je n'aime pas spécialement la bagnole. Mais je constate que j'en ai besoin. Régulièrement. Et encore, je suis à la retraite et j'habite, grosso modo, je peux atteindre tout ce qui est vital à pied. Donc, là aussi, oui, bien sûr. Et puis, il ne faut pas être catastrophiste. Agissons. Oui, l'écologie nous demande, la crise écologique, le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, etc., nous demande d'agir. Mais agissons comme nous pouvons. Au lieu de nous invectiver les uns les autres, moi, qu'est-ce que je vous dis que je ne fais pas ? Oui, j'ai une voiture, c'est une hybride, une petite hybride. Bon. Si vous voulez, je peux m'en passer. Hein. Mais moi, je peux m'en passer. Il y a plein de mes contemporains qui ne peuvent pas s'en passer. Alors, par contre, c'est vrai que j'ai très peu de sympathie pour les SUV. Mais bon, ces grosses bagnoles, alors c'est quand même assez délirant. C'est à une époque où il y a de moins en moins de neige qu'on a des pneus de plus en plus gros. Bon, mais enfin. Voilà.
Alors, deux questions sur la notion de foi radicale. Une foi radicale, en quel sens ? Et une autre. La foi telle que vous avez pu l'exprimer et telle que nous l'avons entendue est de plus en plus fondée sur l'expérience. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui fondaient leur foi sur l'intellectuel, donc sans exprimer aucune expérimentation. J'arrive pas bien à lire. Dans votre exposé, vous remplacez la foi en Dieu par la radicalité et vous l'associez à l'expérience. Y a-t-il toujours de la radicalité dans ce cas et laquelle ?
Oui, alors, j'ai employé le mot, et je signe, je persiste et je signe, j'ai employé le mot radical, mais c'était tout simplement, c'est un synonyme à ce niveau-là de religieux. C'était pour montrer que la foi, c'est pas que l'affaire des églises, des nefs, des curés, des pasteurs, des sacristies. La foi, c'est comme l'espérance et l'amour. Voilà, c'est quelque chose de complexe, de profondément qui imprègne nos existences. J'ai essayé de montrer au niveau de la recherche scientifique, tout simplement, que même là, ça ne pouvait pas marcher sans ce fait de s'élever au-delà de la bête matérialité. C'est ensuite à l'intérieur des relations humaines, j'ai essayé de montrer que, enfin, j'ai évoqué le fait que, et Dieu sait si cela caractérise notre société, nous ne pouvons pas vivre sans confiance fiduciaire, de fric. C'est-à-dire, nos institutions elles-mêmes ne tiennent que parce qu'on leur fait un minimum de confiance. Et ensuite, du coup, qu'est-ce que c'est que la foi religieuse ? Ce n'est pas un truc à part, ce n'est pas une expérience particulière. C'est la radicalité, c'est montrer justement combien c'est vital et combien ça s'enracine, racine radicale, dans l'absolu, avec ce double effet diabolique, c'est en s'enracinant dans l'absolu qu'à la fois on obtient, je reviens, les gestes les plus tendres, les plus étonnants, jusqu'au martyr, c'est là où c'est parce que l'on croit enraciné, radicalisé dans un Dieu qui serait déshumanisé. C'est quand même la chose extraordinaire du... Comment est-ce que ça a pu être, ça a pu apparaître sur Terre ? Que Dieu n'est jamais tant Dieu que lorsqu'il est humain. Ça, c'est Jésus-Christ. Dieu, le créateur de la vie, le protecteur de la vie, n'est jamais tant Dieu que lorsqu'il meurt sur une croix. Voilà, alors donc, alors en ce qui concerne les expériences, oui, ben bien sûr, mais tout le monde a des expériences. Je dirais, la personne qui est née dans une famille bien chrétienne, ben, je veux dire bien protestante, et qui m'a suivi, pourquoi voudriez-vous qu'elle soit disqualifiée par rapport à une personne qui a eu une illumination du Saint-Esprit? Une chose est sûre, c'est que Dieu est aussi le Dieu de la diversité. Et il y a des gens qui vivent une vie de foi paisible. Pourquoi serait-il disqualifié par rapport à... Là, je ne vise forcément personne de l'auditoire, je ne vise même pas beaucoup de groupes européens, mais je pense aux évangéliques, aux évangéliques charismatiques, auxquels je ne conteste pas du tout les expériences qu'ils peuvent faire. Ce que je conteste, c'est lorsqu'ils disent « Vous n'êtes vraiment chrétien que si vous faites la même expérience que moi. » En fait, pour certaines formes de charismatique évangélique, il faudrait presque avoir eu un cancer et puis avoir été guéri par l'imposition des mains pour être enfin un bon chrétien. Bon. Dans le fameux chapitre 4 de mon bouquin sur les pathologies du croire, on peut facilement montrer, mais ça pue presque à plein nez qu'il y a entre le trumpisme, qui lui n'est pas charismatique, mais enfin bon, il flirte pas mal avec ces milieux évangéliques, avec le trumpisme et le djihadisme. Ça n'a pas, c'est pas tout à fait la même forme, mais vous avez par exemple dans l'évangélisme, à Pasadena, en Californie, il y a une université évangélique qui initie à la conquête des sept montagnes. Qu'est-ce que c'est ? C'est les sept montagnes, c'est la culture, la religion, la science, je ne sais pas, et qui se donne pour objectif, non pas évidemment de prendre un sabre ou des roquettes et puis de taper sur l'ennemi, mais d'infiltrer. C'est très exactement ce qui se passe outre-Atlantique. Infiltrer, on infiltre tous les milieux, enfin le plus de milieux possible, la finance, bien sûr. Et ces sept montagnes, c'est les sept montagnes de Dieu, d'après eux. Et voilà, il faut les investir, à mon avis, et les investir pourquoi ? Après tout, pourquoi pas ? Mais pour déblatérer, il faut écouter les discours. Après tout, finalement, Trump est un homme comme... c'est un frère comme un autre, hein. Mais franchement, les conneries qu'il dit. Voilà.
Donc ça renvoie effectivement à votre chapitre sur les pathologies du croire. Alors il reste quelques questions. Peut-être on va voir pour les conclusions. Qu'est-ce qui permet de dire que Dieu a confiance en l'homme ?
La foi ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est le croire. Qu'est-ce qui permet de dire ça ? C'est le fait de prendre le risque, de faire le pari. C'est d'ailleurs très exactement... Donc, je redis, hein, parce que c'est pas du littéralisme, mais c'est pour s'y retrouver. Marc 11, verset 22. Jésus dit « Ayez la foi de Dieu. » Ayez la foi de Dieu. Et pourquoi est-ce qu'on peut penser que c'est plutôt que la meilleure... la traduction la plus juste, c'est « Ayez la foi de Dieu » plutôt que « Ayez foi en Dieu » C'est parce qu'il dit « Ayez la foi de Dieu, et si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, donc c'est un « va te jeter dans la mer », c'est un acte créateur comme il n'y en a pas d'autre, et elle le ferait. Il dirait à cette montagne de s'abaisser et elle s'abaisserait. Donc ayez la foi de Dieu, comme Dieu qui a créé le monde. Bonsoir, nous sommes bienvenus de quelque part. Il a bien fallu que quelqu'un nous, que quelque chose ou quelqu'un nous crée. Et si, question de foi, ça peut être tout, le pur hasard et le pur néant. Mais si vraiment il y a une intention dans ce fait que nous sommes, nous, humanité, créés, il ne nous laissera pas tomber. Ce sera sans doute dur, cruel. Combien de larmes, que ce soit d'ailleurs en Ukraine ou que ce soit en Palestine, Israël, ou que ce soit en Libye à la suite des inondations, où, je dirais, notre humanité va encore pleurer, souffrir, raison de plus pour croire et pour agir.
Je propose, il reste quelques questions, mais je propose, puisque Jean-François Collange est là toute la semaine, que vous alliez aussi les lui poser directement. Déjeuner, dîner avec lui, voilà, pour ceux qui restent insatisfaits par rapport aux questions. En tout cas, nous vous remercions, bien sûr, grandement, vivement.
Franchement, c'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est tout.
Voilà. Et merci de rester toute la semaine aussi et donc nous offrir ce dialogue. Dominique.